journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. La police française mise face à ce qu'elle aurait préféré cacher. Reportage en début de journal à la frontière avec l'Italie où des migrants mineurs voient leur date de naissance falsifiée avant d'être reconduits de force à la frontière. Être musulman en France en 2018, baromètre d'une communauté toujours en lutte contre les stigmatisations. Nous serons dans quelques minutes dans les allées du rassemblement annuel des musulmans de France. Il se tient au Bourget. Le début d'une campagne présidentielle qui s'annonce serrée au Mexique. Nous retrouverons notre correspondante Emmanuel Stills. L'élection est prévue le 1er juillet et nous tenterons d'y voir plus clair sur la chute annoncée sur Terre d'une station spatiale chinoise devenue incontrôlable. Une preuve, s'il en était encore besoin, que la France ne respecte pas ses engagements d'accueillir et de protéger les mineurs étrangers migrants. Hier, à la frontière italienne, des associations françaises de défense des droits de l'homme menaient une opération surprise dans les locaux de la police aux frontières de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Et le constat est édifiant, Pauline Renoir.
Les migrants sont entassés dans des algéco sans eau et sans nourriture. Les femmes sont mélangées avec les hommes et les mineurs sont presque toujours renvoyés en Italie. La députée Europe Écologie Les Verts, Michèle Rivasi, énumère les infractions aux droits.
Déjà là, on a un cas où il y a un jeune. On lui a déchiré ses papiers comme quoi il y avait son acte de naissance. Et on lui a mis, bien sûr, 2000. Comme ça, c'est un adulte. Ben, je vais le prendre, ce jeune. Je vais retourner à la police française et je vais leur demander, expliquez-moi ça. L'âge de ces jeunes n'est pas objectivement le bon âge. On joue là-dessus pour pas prendre en charge ce que l'état de droit français doit faire.
La scène est surréaliste. La députée montre aux policiers qu'il y a erreur sur l'âge de deux migrants. Il corrige alors les documents en précisant qu'ils sont en fait mineurs. Pour Mireille Damiano, avocate au barreau de Nice, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.
Combien au-delà de ces deux et chaque jour sont finalement portés dans ce tableau d'inscription qui se trouve à la PAF comme étant des majeurs et refoulés comme des majeurs. Pour tout vous dire, ça nous rend très en colère.
Trois adolescents dont le sort était presque scellé ont finalement pu être pris en charge par la PAGE, une association de protection des mineurs qui est venue les chercher à Menton.
Pauline Renoir de France Bleu Azur pour France Culture. À la SNCF, la grève perlée, on le sait, va commencer demain 19h et devrait perturber sérieusement les retours du week-end de Pâques. Les syndicats de cheminots dénoncent une prime qui vient d'être accordée à certains cadres pour les inciter à remplacer les grévistes aux commandes des trains qui auraient pu être bloqués par le mouvement social. Les syndicats y voient une manière déguisée de casser la grève. C'est une vitrine devenue incontournable. Pour la 35e année consécutive, les musulmans de France tiennent leur rencontre annuelle en ce week-end prolongé. Ça se passe au parc des expositions du Bourget, au nord de Paris. Un lieu de réflexion et de conférences sur l'islam, mais aussi de présentation de stands sur l'éducation, la santé ou encore les causes humanitaires. Un baromètre surtout de la communauté musulmane française, de ses représentations aussi dans le reste de la société. Une semaine après les attaques djihadistes de Carcassonne et de Trèbes, l'urgence pour tous, c'est de tenter de dissiper malentendus et amalgames, Louis-Valentin Lopez.
Dans les allées, les femmes musulmanes couvrent leurs cheveux sans crainte d'être jugées, ce qui n'est pas le cas selon elles dans l'espace public. À Metz, un message pour des passants au regard parfois insistant.
Venez discuter avec moi, parlez aux femmes musulmanes autour de vous, aux femmes voilées, et essayez de comprendre avec elles qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile. Et c'est un choix et on est des femmes comblées, souvent accomplies.
École des mines et diplôme de bio-ingénierie pour Ahmès. Ahmed, lui, est interne en cardiologie et comme tous, il souhaite se dissocier de l'attentat de Trèbes du 24 mars dernier.
Là, on est représentant d'une association qui regroupe des professionnels de santé musulmane. Donc on travaille pour la préservation de la vie et quand on voit que certains se revendiquent de la même foi que nous pour détruire la vie, ça nous affecte doublement.
Même ressenti de Vincent, converti.
Même vis-à-vis de ma propre famille alors que ça fait 20 ans que je suis musulman.
Et tous pointent du doigt un responsable.
Les journalistes entre autres.
Quand vous regardez certaines chaînes, bon, je dirais pas le nom. Hein.
Des médias pro-Israël aussi, c'est ce que disent deux visiteurs en off alors que la défense de la cause palestinienne s'affiche dans le hall. Des médias qui vilipendent aussi, selon eux, un homme qui a son stand dédié, le mot dièse, Free Tariq Ramadan.
Je pense que Tariq Ramadan, c'est une personne intègre, une personne honnête.
Nicolas Sarkozy, lui, il est tranquille. Hein.
France, pays des droits de l'homme, pays démocratique, on se pose beaucoup de questions. Hein.
L'islamologue reste admiré parmi les visiteurs. L'un confie qu'il a l'impression qu'à travers son traitement, c'est toute la communauté musulmane qui est stigmatisée.
Et pour rappel, le théologien Tariq Ramadan est en détention préventive depuis le début du mois de février et sa mise en examen pour 2 plaintes de viol et agression sexuelle. C'est la rumeur tenace du moment dans le monde politique. L'ex-ministre Les Républicains Thierry Mariani dément fermement tout accord d'alliance avec le Front National pour les élections européennes de l'an prochain. L'élu du Vaucluse, selon Le Parisien, serait prêt à rejoindre la liste du FN en 3e position. C'est une information non vérifiée et de toute façon, le scrutin n'est que dans 14 mois. Je n'ai rien à annoncer pour l'instant, se défend Thierry Mariani. On a connu des négations plus franches. France Culture, 9h passées de 5 minutes. C'est une information qui pourrait signifier la fin des combats dans la Ghouta orientale en Syrie, l'une des dernières zones où les rebelles résistent encore à l'armée de Bachar al-Assad. Un accord aurait été trouvé pour l'évacuation des derniers civils. Accord conclu, nous dit l'Observatoire syrien des droits de l'homme, entre la Russie, qui est l'allié du régime syrien, et les rebelles qui tiennent cette région de la Ghouta et principalement cette ville de Douma où se situent les dernières poches de résistance. Vers un nouveau face-à-face à Gaza entre des milliers de manifestants pour le droit au retour des réfugiés et l'armée israélienne. La journée d'hier a été marquée à Gaza par les funérailles, très suivie des 16 personnes tuées dans les violences frontalières de vendredi. Et dans le même temps, à Tel Aviv, hier soir, Benjamin Netanyahou félicitait ses soldats et les États-Unis bloquaient, eux, à l'ONU, un projet de déclaration qui demandait une enquête indépendante sur le bain de sang de vendredi. Élection présidentielle au Costa Rica ce dimanche avec un pays d'Amérique centrale particulièrement divisé par le scrutin. À part un même nom de famille, les deux candidats ne partagent pas grand-chose. Fabricio Alvarado est un pasteur évangéliste franchement conservateur. Carlos Alvarado, lui, se présente comme un homme de centre-gauche, favorable à plus de présence de l'État dans l'économie et également favorable au mariage homosexuel, un thème qui aura été au cœur de la campagne présidentielle. Des élections au Mexique, ça ce sera le 1er juillet, élections qui vont voir l'élection donc du successeur du très impopulaire président Enrique Peña Nieto. Et déjà se profile un favori, il s'agit d'Andrés Manuel López Obrador. Les enjeux de ce scrutin et de cette campagne qui commence depuis Mexico, on voit ça avec Emmanuel Stills.
Andrés Manuel López Obrador a débuté sa campagne pour la présidentielle dans le nord du Mexique, parce que c'est là que la révolution avait commencé il y a un peu plus d'un siècle. Et c'est une nouvelle transformation que cet homme de 64 ans, déjà 2 fois candidat, promet d'opérer dans le pays. Celui que les Mexicains appellent par ses initiales, AMLO, part cette fois-ci comme le grand favori des électeurs. Il accapare 35 à 40% des intentions de vote pour une élection qui se joue en un seul tour. Adulé à gauche ou détesté par ceux qui voient en lui un populiste radical, López Obrador polarise l'opinion. Certains le comparent au Vénézuélien Hugo Chavez, mais lui-même choisirait plutôt l'ex-président uruguayen José Mujica comme modèle. Il affirme qu'une fois élu, il réduira son salaire et restera vivre dans son appartement. Face à lui, 3 candidats qui représentent la continuité. Ricardo Anaya, à la tête d'une étrange coalition droite-gauche, José Antonio Meade, ministre d'Enrique Peña Nieto, aussi impopulaire que le président, et Margarita Zavala, qui défend le bilan de son époux, l'ex-président Felipe Calderón. Parmi ces candidats, la presse mexicaine s'accorde pour dire que López Obrador est le seul à incarner une véritable rupture avec le passé. Qu'il s'agisse de la violence, de la corruption, de la pauvreté ou de la relation difficile avec les États-Unis, les Mexicains se montrent avides de changement. Et ils veulent croire AMLO lorsque celui-ci promet d'expulser la mafia du pouvoir.
Elle s'appelle Palais Céleste 1 et c'est une ancienne station spatiale chinoise qui a quitté son orbite et se dirige à grande vitesse vers la Terre. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est un véritable sujet qui inquiète sur Terre. Pékin dit qu'il n'y a pas de danger, les débris vont se désagréger dans l'atmosphère et nous offrir tout au plus un beau spectacle. Mais tous les experts spatiaux ne sont pas aussi enthousiastes et le doute persiste également sur l'endroit où les débris cosmiques vont plonger vers la Terre. Explication avec Sophie Becherel.
Le Twitter chinois ne sait qui croire. Les Occidentaux qui disent depuis 2016 que Tiangong 1 est incontrôlable ou les officiels nationaux qui soutiennent que la retombée est maîtrisée au terme d'une mission réussie. Pour l'Agence spatiale européenne, la zone concernée est comprise entre le 43e degré de latitude nord et le 43e sud. Ce qui fait du monde. Seul le Canada, la Sibérie, l'Europe du Nord et la Patagonie seront épargnés. En France, la Corse est concernée avec un risque sur 40 000, les Antilles et la Réunion également. Mais les précédents montrent que peu importe les prévisions, collision. Seule la station Mir, 130 tonnes, a connu en 2001 une désorbitation parfaite. Les débris qui n'avaient pas brûlé sont retombés dans le Pacifique Sud. Auparavant, il y a eu des ratés, sans faire de victimes toutefois. Skylab, première station orbitale américaine, est retombée en Australie alors qu'elle était attendue au sud de l'Afrique du Sud. La russe Salyut 7 termina sa course en Argentine. Le module chinois, lui, est tout petit, 9 tonnes, l'équivalent d'un autocar. Sa rentrée dans l'atmosphère devrait provoquer de tels échauffements que les pièces vont toutes brûler, sauf si elles ont été conçues dans des matériaux résistants à de fortes chaleurs comme le titane, ce qu'à ce jour on ignore.
Et ce qui est sûr du côté du ciel, c'est que la pluie va tomber aujourd'hui sur une bonne partie nord du pays, en particulier la Bretagne et l'Alsace-Lorraine. De la neige des 600 mètres ce matin sur les reliefs de l'Est et un soleil qui brille pour le sud avec des températures cet après-midi entre 12 et 18 degrés.